Bible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi et en ouvrant ta parole, nous te demandons l'aide du Saint-Esprit pour que ce même esprit qui a inspiré les auteurs de ce livre puisse maintenant nous permettre de l'appliquer à nos vies. Mais Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Nous te demandons de nous sanctifier par ta vérité. Amen. Alors en réalité, j'ai prêché sur le thème de la foi l'année dernière, ou il y a 2 ans, cette église, et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais utiliser la même illustration. Et vous allez comprendre pourquoi, dans le cas de ce sermon, ce n'est pas le même sermon. C'est un sermon sur la foi, mais avec une illustration que j'ai déjà utilisée. Et je crois que c'est souvent avec des illustrations qu'on se souvient dans le mouvement de la vie, dans la vie de tous les jours. Ah, je me souviens de cette histoire. Et ça nous ramène au texte biblique et, j'espère, à l'essentiel de ce que nous voulons retenir aujourd'hui. Mais vous allez sans doute reconnaître l'illustration, c'est cet homme qui un jour marchait le long d'un précipice et quand tout à coup, il bascula dans le vide. Et dans sa chute, il arrive à s'agripper à un arbuste et le voilà maintenant pendu dans le vide. Alors il se met à appeler à l'aide, au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Et une voix répond, oui, il y a quelqu'un, c'est Dieu. Ah, c'est formidable Dieu, peux-tu me sortir de ce pétrin? Et Dieu lui répondit, oui, pour cela, il faut que tu lâches la branche. Quoi? Oui, j'ai bien dit, pour que je te vienne au secours, il faut que tu lâches la branche. Après un long silence, l'homme pendu à la branche s'écria, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Et je vais revenir sur cette petite amusante histoire, parce que vous allez voir que plus qu'on ne l'imagine dans notre vie de tous les jours, quand on fait face à des situations qui demandent la foi, on est bien tenté, nous aussi, de dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que notre foi ressemble un peu trop souvent à la foi de cet homme? Alors, j'espère que avec les textes que nous allons lire ce soir, que nous allons voir 3 situations de foi et que notre foi sera fortifiée. D'abord, dans un premier temps, c'est important de nous rappeler que la foi est un don de Dieu. C'est lui qui nous la donne. Mais ce don ne tombe pas du ciel comme ça, comme quelque chose qu'on recevrait passivement. La foi chrétienne est vivante et elle est décrite dans l'Écriture de différentes façons. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens qu'il n'y a qu'une seule foi, mais que cette foi unique est parfois décrite comme étant faible, dans Romains 14, 1. Il peut lui manquer quelque chose dans 1 Thessaloniciens 3.10, ou encore elle peut être ferme, Colossiens 2.5, bien établie, verset 7. Elle peut également augmenter, c'était la requête des disciples de Jésus dans Luc 17.5. Elle peut être fortifiée, comme c'était le cas de l'église primitive dans Actes 16.5. Mais par-dessus tout, notre texte ce soir dit que Hébreux 11.6 nous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors ce que je vous propose de faire ce soir, c'est de regarder ensemble 3 textes de l'Écriture qui parlent de la foi. En fait, Jésus va dire à deux personnes qu'elles ont une grande foi. Ce sont les deux seules fois dans les évangiles où Jésus admire une telle foi, et une foi comme jamais vue, on pourrait dire, une foi tellement exceptionnelle, magnifique, incroyable. Alors, est-ce que vous voudriez savoir ce soir ce qui a tant bouleversé Jésus en voyant la foi exceptionnelle de ces deux personnes? Alors, les deux personnes en question, ce sont un homme et une femme. L'homme est un centurion romain, la femme est une cananéenne, à l'époque, une sorte de citoyenne de deuxième classe. Et puis nous regarderons une situation contraire où les disciples de Jésus vont manifester une foi tellement faible, quasi inexistante, que Jésus devra les réprimander sévèrement. Et nous finirons avec une application directe pour nos vies de tous les jours et en particulier concernant notre foi dans le cadre de la prière. Alors, première mise en situation, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché dans la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, qu'est-ce que ce centurion romain a compris quand il est venu voir Jésus? Il a compris deux choses fondamentales, deux ingrédients essentiels à une grande foi. Premièrement, il a compris que la puissance et l'autorité de Jésus étaient bien supérieures à tout ce qu'il avait vu ou expérimenté auparavant. Maintenant, c'est important que l'on sache que cet homme n'avait pas, à notre connaissance, vu de ses propres yeux la puissance et l'autorité de Jésus. Il avait seulement entendu dire ces choses au sujet de Jésus et il les a crues. Et certainement, ce centurion avait entendu dire ce qui se dit partout. Cet homme est capable de chasser des démons. Cet homme est capable de guérir des paralysés toute leur vie. Pourtant, ils sont en mesure de marcher maintenant. Mieux encore, il y avait des morts qui sont revenus à la vie. Cet homme est capable de changer de l'eau en vin, et ce n'est pas de la piquette. Alors, ce centurion en savait assez pour croire qu'un homme qui est capable de faire de telles choses était un homme unique dans toute l'histoire. Il fallait qu'il possède l'ultime puissance, l'ultime autorité. Et ce centurion avait tiré la conclusion que ce Jésus n'était pas juste un autre prophète, aussi puissant ou important soit-il. Il fallait qu'il soit quelque chose d'autre, bien supérieur, tellement, presque on pourrait dire, comme Dieu, au point qu'il dira qu'il n'est pas digne de le recevoir dans sa maison, lui, un officier romain. La puissance de Jésus allait au-delà de sa compréhension. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a autorité sur la nature, changer l'eau en vin et du bon, sans diplôme d'œnologie, sans fût de chêne, sans fermentation, ramener des morts, des gens bien morts en décomposition, ça n'existe pas. Et puis, en le faisant avec une seule parole, et puis guérir des gens paralysés toute leur vie, sans opération, sans thérapie, ça n'existe pas. Et puis la deuxième chose que ce centurion romain a comprise, c'est la relation de cause à effet entre la puissance de Jésus et son autorité. Ce centurion avait l'expérience de l'autorité. Il savait quelles sont les implications d'un ordre donné et de son exécution. Il avait sous son commandement 100 hommes, dans une des armées les plus puissantes et disciplinées de l'époque, et dans l'armée romaine, vous donnez un ordre et il est immédiatement exécuté. Alors, ce centurion a fait une équation très juste. Étant donné l'ampleur de la puissance et de l'autorité de Jésus, tout ce que Jésus a besoin de faire est de donner un ordre, dire une parole, et peu importe ce que c'est, peu importe la distance, il sera exécuté immédiatement. Et c'est pourquoi il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur qui est loin là-bas sera guéri. » Je veux vous rappeler quand même que nous ne sommes pas dans ce texte en 2015. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la possibilité de faire des choses absolument incroyables à distance. Nous pouvons faire du FaceTime à partir d'une tablette ou d'un smartphone et parler en direct et voir une personne qui est de l'autre côté de la planète. On peut contrôler un satellite, envoyer des missiles, on peut faire voler des drones tout en contrôlant à distance. On peut à distance allumer sa pompe à chaleur pour pouvoir chauffer la maison, refroidir la maison à l'avance, ou encore ouvrir ou fermer automatiquement les portes et les volets de la maison avec un simple iPhone. Mais même aujourd'hui, avec toute notre technologie, on est loin d'être en mesure de guérir une personne à distance et avec un seul mot. C'est inconcevable, c'est impossible, à moins d'avoir la puissance ultime sur le monde surnaturel, sur le monde naturel. Alors ce centurion qui connaissait le fonctionnement naturel de la puissance et de l'autorité fait le lien avec Jésus et le pouvoir et l'autorité surnaturelle qu'il détient, dit un seul mot, et mon serviteur, loin d'ici, sera immédiatement guéri. Et Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et verset 13, il dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors la foi, c'est de vraiment croire que Dieu a l'ultime puissance, l'ultime autorité sur tout, il peut tout, il fera tout ce qu'il veut, où que ce soit, à n'importe quel moment, pour n'importe qui. Et s'il dit « lâche la branche », eh bien par la foi, on lâche la branche. Notre deuxième histoire, c'est toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Alors cette femme cananéenne faisait partie de cette race assez détestée par les Juifs, les Cananéens, un petit peu peut-être les Roms d'aujourd'hui. Et elle supplie Jésus pour la guérison de sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Et elle s'adresse à Jésus en l'appelant « fils de David », une terminologie juive qui semble indiquer qu'elle avait compris quelque chose quant à la nature de Jésus, le Messie que les Juifs attendaient, qui viendrait prêcher aux pauvres et guérir les malades. Et de toute évidence, elle avait aussi entendu toutes ces choses au sujet de Jésus, tous les miracles qu'il avait accomplis, alors elle le supplie de guérir sa fille. Et très curieusement, Jésus ne répond pas. Il choisit de l'ignorer. Il fait comme si elle n'existait pas, ou il semble totalement désintéressé, ce qui n'est pas une caractéristique de Jésus. Et les disciples sont vraiment agacés de la persistance de cette femme, alors ils demandent à Jésus de la renvoyer. « Fais quelque chose, donne-lui ce qu'elle veut, mais qu'elle nous lâche !» Et là, Jésus répondit à ses disciples en disant qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, quelque part, il dit vrai, car sa première mission est Israël. C'est seulement après sa mort et sa résurrection et à son ascension qu'il enverra les disciples prêcher l'évangile dans le monde entier, juifs et non-juifs. Mais cette femme persiste. Et Marc précise qu'à ce moment-là, Jésus est entré dans une maison privée et cette femme, sans y être invitée, est rentrée aussi. Et là, elle devient encore plus insistante, elle se jette aux pieds de Jésus en le suppliant. Alors cette fois-ci, Jésus s'adresse directement à elle, mais ce qu'il va lui dire n'est pas très encourageant. Il lui dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Alors ici, Jésus fait référence aux Juifs d'Israël, les enfants, et l'intention de Dieu de bénir son peuple, Israël, avec toutes ces guérisons qui sont représentées ici par le pain. Ce rejet peu usuel de Jésus, qui compare cette femme cananéenne à un petit chien sous la table, nous paraît très humiliant. La suite va nous montrer que Jésus est clairement en train de tester la foi de cette femme et sa réponse va le confirmer parce qu'elle répond du tac au tac en disant « quelque chose d'époustouflant ». « Ah oui, les petits chiens, ça mange les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Alors voilà ce que je crois elle est en train de dire à Jésus. Alors je paraphrase dans ce que je crois elle est en train de lui dire. « Oui, les Juifs sont les enfants ». Et oui, les Cananéens, ce sont les petits chiens sous la table, mais ces petits chiens-là sont là légitimement. Tout ce qu'on veut, c'est notre part, même si ce ne sont que les miettes. Les enfants de la table, eux, ne manqueront de rien. Ils auront tout le pain nécessaire. Ils ne s'intéressent pas vraiment aux miettes. Et Jésus, quand tu m'as appelé petit chien, en fait, tu es en train de me donner ce que je demande. Je ne prétends pas être la fille d'Abraham. Tout ce que je demande, c'est la miséricorde accordée aux petits, à ces petites créatures qui tiennent la plus petite place dans la maison. Les enfants seront nourris, il ne leur manquera rien, mais les miettes sous la table seront un festin pour nous. Une simple petite pièce, miette de ta part me suffira pour que ma fille soit délivrée. Et en fait, la plaidoirie émouvante de cette femme, qui en appelant Jésus fils de David, nous indique qu'elle semble connaître l'histoire du peuple de Dieu. Et là, j'ai creusé un petit peu parce que c'est une histoire assez compliquée, et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire qu'elle fait ici référence à Genèse 12:3, qui dit « En toi, Israël, toutes les familles de la terre seront bénies ». Alors tout ce qu'elle demande, c'est sa part de bénédiction d'une promesse que Dieu lui-même a faite à Abraham, le père de tous les croyants. Un peu comme si elle disait, « Oui, je ne suis pas de la race d'Israël, mais cette alliance que tu as faite avec Abraham, elle me concerne, car je me tourne vers toi, Jésus, avec la foi d'Abraham, et ainsi je suis une fille spirituelle d'Abraham, le père de toutes les nations. » Et Jésus dira à cette femme, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors c'est la deuxième et dernière fois que Jésus loue quelqu'un pour sa grande foi. Et ce qui caractérise la grande foi de cette femme cananéenne, c'est son audace, sa persistance, sa persévérance à prendre la parole et les promesses de Dieu au sérieux, et ceci dans une grande démonstration d'humilité. Troisième situation que nous connaissons tous bien dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors encore une fois, là nous voyons que Jésus est très fatigué, il a enseigné les foules toute la journée, et maintenant il est temps de prendre un peu de repos et une croisière sur le lac semble lui tendre les bras. Et alors qu'il navigue sur ce lac, loin du bruit, loin des foules, Jésus s'est trouvé un petit coin au fond du bateau pour se reposer, et il est tellement fatigué qu'il s'endort. Alors, quand on sait que ce lac est entouré de massifs montagneux environnants, c'est là qu'on sait aussi qu'il y a une réputation pour des violentes tempêtes qui surprennent même les pêcheurs les plus expérimentés, et beaucoup de bateaux faisaient naufrage. Alors ce soir-là, c'est exactement ce qui se passe. Tout d'un coup, il y a une de ces grosses tempêtes qui se déclenche et le bateau des disciples est sur le point de couler. Le texte dit « L'eau commençait à passer par-dessus bord ». Alors les disciples de Jésus ont attendu jusqu'à ce moment-là pour enfin dire « C'est le temps de réveiller le maître ».« Maître », et là on voit qu'il lui faut un reproche, « Ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssons ?» Et là Jésus se réveille et il menace le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et le texte dit qu'il y eut un grand calme. Le résultat est immédiat. Le résultat est incroyablement surprenant. Jésus a dit seulement trois mots, trois petits mots, d'un maître aux commandes, et les énormes vagues, les éclairs, le tonnerre, le vent, obéissent immédiatement. Et là, les disciples sont comme bouche bée et ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes? Et Jésus, qui se tourne vers eux, leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? En fait, ils ont encore plus peur maintenant que tout est calme. Et je crois que si nous avions été à leur place, nous aurions aussi, nous tremblerions. Et la question qu'il pose, c'est dire justement, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors, contrairement aux deux histoires précédentes, les disciples de Jésus n'avaient pas seulement entendu parler de sa puissance et vu son autorité. Ils avaient à plusieurs reprises été des témoins oculaires de ces miracles, de ces manifestations extraordinaires. Eux ont été témoins, mais ils ont aussi goûté ce pain multiplié qui a nourri des milliers de personnes. Ils ont vu de leurs propres yeux ces gens guérir. Ils ont goûté cette eau changée en vin. Ils ont vu beaucoup d'autres miracles, puisque l'Écriture dit, d'ailleurs Jean dit qu'il y a eu beaucoup plus de miracles que Jésus a fait qui ne peuvent pas être écrits, car ça prendrait des livres pour les raconter. Alors ils en ont plein la tête, ils en ont vu tant. Pourtant, dans le feu de l'action, ils doutent. Ils doutent de quoi? Ils doutent de l'amour de Jésus. Ne t'inquiètes-tu donc pas que nous périssons? Ils doutent de sa sagesse et de son omniscience. Comment peut-il tout connaître d'avance? S'il avait su ce qui va se passer, qu'une terrible tempête allait s'abattre sur nous, il n'aurait jamais suggéré de traverser le lac à ce moment-là. Il doute de sa toute-puissance. Comment peux-tu permettre à des vagues géantes de nous submerger, maître? Est-ce que tu peux faire quelque chose? S'ils avaient été cet homme accroché à la branche, pendu dans le vide, ils auraient certainement dit avec lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Ce que les disciples n'ont pas fait, c'est le lien de relation de cause à effet que le centurion romain a fait. Si Jésus est vraiment ce que j'entends dire, il est. S'il fait les miracles qu'on me dit, il a fait. Alors, il peut tout faire à n'importe quel moment et n'importe où. Donc, il peut guérir mon serviteur à distance avec une seule parole. La grande foi de ce centurion ne reste pas au stade de l'observation et des constatations. Elle est en mouvement, elle est active. Je crois dans les paroles de Jésus. Je crois dans son autorité, dans son pouvoir, dans sa puissance. Je crois qu'il sera là dans n'importe quelle tempête de ma vie et que sa volonté sera toujours accomplie. La femme cananéenne croit dans les promesses de l'Écriture et dans une profonde humilité. Elle sait que Dieu tient ses promesses. Et ainsi, elle ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il intervienne. Alors les disciples sont dans la tempête. Et malgré tout ce qu'ils ont déjà vu, tous les miracles et la puissance de Jésus dans la tempête, alors que Jésus est là, tout près d'eux, à côté d'eux, ils fixent leur regard et leur attention, non pas sur Jésus, mais sur les circonstances terrifiantes qui les entourent, la tempête. Et très honnêtement, je me dis, qu'est-ce que nous aurions fait si nous avions été à la place des disciples? N'est-ce pas qu'il nous arrive si souvent, lorsque nos vies sont balancées de part et d'autre par toutes sortes de tempêtes dans nos vies? Vous savez, il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas de problème. Je plaisante, hein. Nous avons tous nos problèmes. Nous avons tous nos épreuves. Certes et heureusement, il y a des périodes calmes dans nos vies. Et on s'en réjouit. Mais inévitablement, si vous avez embrassé le christianisme pensant que ça allait être du surfing, eh bien c'est raté. La vie chrétienne est complexe et compliquée et nous ne sommes pas épargnés des épreuves. La différence, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors sachez que si vous n'avez pas eu encore beaucoup d'épreuves, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et il y en aura. Et parfois, elles sont très violentes. Et cela me mène à la conclusion, parce que on parle de la foi comme étant essentielle pour être sauvée, une foi essentielle pour qu'elle puisse grandir, mais quel est le lien entre cette foi et la prière? Quelle est la relation entre la foi de ce centurion romain, la foi de cette femme cananéenne, une foi dans la personne de Jésus-Christ, qui a la puissance et l'autorité absolue de Dieu, que Dieu seul possède, la foi dans toutes les promesses de sa parole, et nos prières? Il y a quelques années, je me souviens avoir prié avec une très grande intensité, en suppliant Dieu de ramener à la vie mon collègue, le pasteur David Voss, mort d'un arrêt cardiaque dans une sortie d'église à Iseron. Et je me souviens avoir prié Matthieu 21-22. Quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Alors j'ai prié avec toute la foi que j'avais, on était plusieurs, quelques-uns d'entre vous d'ailleurs étaient là, mais mon ami ne s'est jamais relevé. Je me souviens aussi avoir en tête l'expérience qu'a eue l'apôtre Paul. Je m'étais dit à ce moment-là, si l'apôtre Paul était là et qu'il ait prié avec nous, peut-être que mon ami se serait relevé. Après tout, l'apôtre Paul a prié pour cet homme qui est tombé du troisième étage et qui s'est endormi pendant qu'il prêchait. J'espère que vous n'allez pas vous endormir aujourd'hui, mais il n'y a pas d'étage à tomber, hein. Mais cet homme, vous vous souvenez, tombé du troisième étage, il est reçu comme mort, et Paul le ramène à la vie. Et puis Paul lui-même a été mordu un jour par un serpent dont le venin était mortel, et tout le monde s'attendait à le voir tomber mort, et Paul a survécu. Alors quand je priais, je pensais à cela, et puis je me suis souvenu aussi que par contre, quand lui-même souffrait d'un handicap, d'un problème de vue qui le freinait dans son ministère et qui rendait sa vie misérable, il a demandé à Dieu de le guérir. Et là aussi, Dieu a répondu, puisque Dieu, on va voir, répond toujours à la prière, mais sa réponse fut négative. Dieu lui a dit « Ma grâce est suffisante ». Alors comme cette femme cananéenne, il a persisté, il a redemandé à Dieu de le guérir. La réponse fut la même « Ma grâce est suffisante ». Et là, l'apôtre Paul n'est pas satisfait de ce deuxième refus, donc il y va à la charge une troisième fois. Et Dieu lui répond la même chose. Alors, est-ce qu'il avait perdu la foi? Bien sûr que non. Donc, je vais vous revenir à notre texte du départ, Hébreux 11:1, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et là, il dit quelque chose de curieux. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne peut pas toujours voir avec nos yeux le résultat immédiat qui nous conforterait en voyant que Dieu est en parfait contrôle dans tout ce qui se passe dans le monde, en parfait contrôle dans tout ce qui se passe au moment même dans ma vie aujourd'hui. Mais la foi, c'est de croire que quoi qu'il arrive, d'abord savoir que Dieu mène, qu'il est absolument omniscient, omnipotent, fidèle à ses promesses, qu'il a un plan bien établi, bien réfléchi, et qu'il est en train d'accomplir quelque chose à travers toutes les circonstances de nos vies, avec tout, dans tout ce qui nous entoure. En fait, tout converge vers un but ultime, qui est l'avènement de son royaume. Et ceci, que nous le voyons avec nos yeux ou non. Alors quand il parle d'une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ça semble être une contradiction, puisqu'une démonstration, c'est quelque chose que je fais devant vous. Regardez, je dis, je fais une démo. Mais là, ici, la foi, elle dit, c'est de croire que même si je ne le vois pas, Dieu est en train de démontrer quelque chose. Dieu est en train de nous rappeler que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a un plan et qu'il est en parfait contrôle. Alors, si on réfléchit bien à cela, les implications d'une telle foi sont énormes. Parce qu'un chrétien doit pouvoir croire cela, alors qu'en ce moment même, il peut être pourchassé, sorti de ce pays, mis à mort par l'État islamique. Pensez à nos frères et sœurs. Un chrétien doit pouvoir croire cela quand un malade mental crache son avion avec 150 passagers devant lui. Un chrétien doit pouvoir croire cela alors qu'il n'a pas de nouvelles d'un proche qui était parti en randonnée au Népal. Et vous pouvez appliquer ça à votre vie de tous les jours. La foi. La grande foi de ce centurion romain et de cette femme cananéenne qui a marqué le Seigneur Jésus, c'est de croire dans cette promesse de l'Écriture que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même le péché. Nous savons que Dieu haït le péché, on l'a encore confessé ce soir. Mais Dieu est tellement souverain qu'il est même au-delà de nos péchés. Ça veut dire que malgré nos écarts de la vie chrétienne, Dieu continue à faire concourir toutes choses pour notre bien et pour le but final, l'avènement de son royaume. Alors, quand nous prions avec la foi qui doit accompagner nos prières, Jésus va répondre à toutes nos requêtes, mais je vous rappelle peut-être ce que vous savez déjà, qu'il y a trois scénarios possibles. Dieu pourrait dire, « Oui, je suis avec toi dans ta barque, je ne dors pas, ta prière est le moyen par lequel je vais accomplir ma volonté, je vais guérir cette personne, je vais ouvrir cette porte, je vais changer ce cœur, je vais pourvoir à ce besoin urgent. » Oui, voilà ma réponse, c'est oui. Ou bien sa réponse pourrait être, « Je suis avec toi dans ta barque et je sais que tu galères, excusez le genou, mais attends encore un peu. » Continue à prier et souviens-toi que c'est par la prière que j'accomplis ma volonté. Mais il faut que tu persévères. N'oublie pas, je suis avec toi. Mais ce n'est pas le moment. Et puis, il dira parfois, comme il a dit à Paul, non. Je suis avec toi dans la barque, mais ma réponse est quand même non. Même si tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, fais-moi confiance. Sache que je t'aime, je fais ce qui est le meilleur pour toi, car tu es mon fils, tu es ma fille, citoyen de mon royaume. Alors prier avec foi, c'est prier avec l'assurance que Dieu entend toutes nos prières et qu'il répondra toujours par un oui, un pas encore ou un non. Et mes amis, ce genre de croyance ne s'observe pas à distance. On croit en Dieu, on sait que Dieu peut agir par la prière, mais ça reste trop souvent au niveau intellectuel. Oui, je sais que Dieu peut faire cela. Oui, je sais que Dieu a accompli des choses extraordinaires dans le passé. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est tout puissant, mais Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? La foi, c'est de croire que Dieu parle par sa parole et ne pas se contenter de l'écouter, comme dit l'Écriture, mais de la mettre en pratique. Quand on prie par la foi, même si notre foi est faible, toute petite, l'Écriture nous dit qu'elle peut déplacer des montagnes. En fait, quand on prie par la foi et qu'on applique Philippiens 4, 6 et 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en certaines choses, non, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors on prie. On prie avec intensité, on prie avec des supplications, on fait connaître à Dieu nos requêtes, nos désirs, nos besoins, on lui fait part de nos douleurs, de nos chagrins, et on rajoute à cela des actions de grâce, c'est-à-dire on le loue, on le remercie, on l'adore parce qu'on a confiance en lui, on sait qu'il est là, souverain, et quand on souffre et qu'on est dans la tempête, c'est difficile de faire ces actions de grâce, mais ça demande la foi et il faut le faire. Et ce qui se produit ensuite est quelque chose que un non-chrétien ne peut pas comprendre du tout. Quand on prie de cette façon, on a tout remis entre les mains de Dieu, on a lâché la branche, et la paix de Dieu vient garder notre cœur. La paix en question aussi, en réalité, dans le contexte, est comparée à un soldat, ou des soldats qui viennent monter la garde autour de notre cœur, qui viennent protéger notre cœur, le protéger des inquiétudes, des angoisses qui pompent dans nos énergies, des peurs qui nous paralysent. Quand on s'approche du trône de la grâce, on ne veut pas imiter les disciples qui accusent Jésus. Pourquoi t'as permis une telle chose dans ma vie? Oui, la tempête était terrifiante. Remarquez que Jésus n'a pas dit à ses disciples, c'est vrai qu'elle était terrifiante cette tempête. Hein? Oh, c'est vague! « Oh là, je comprends vos peurs, hein. Allez, on n'en parle plus, c'est d'accord? C'est ok ?» Non. Il les a repris. Il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous donc point de foi ?» En entendant ces paroles de Jésus, alors qu'il était là avec eux dans le bateau, alors qu'ils avaient vu tant de miracles, je peux entendre dans sa voix la tristesse. Mais quand je l'entends dire à la femme cananéenne et au centurion romain « Grande est ta foi !» Je peux entendre dans la voix de Jésus du plaisir et de la joie. Et je vous rappelle que le texte nous dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Alors ce chapitre 11 d'Hébreux, qui commence avec le texte que j'ai utilisé ce soir, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, est suivi d'une longue liste des noms des héros de la foi de l'Ancien Testament. » Mais si vous allez un petit peu plus loin, le chapitre 12, verset 1, c'est pour nous. C'est pour nous. Après avoir lu cette longue liste, il nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, quand nous lisons ces textes qui ont été écrits il y a bien longtemps et que nous voyons tout ce qui a précédé ta venue, Seigneur Jésus, que ces gens étaient morts en vue de ta venue, du sacrifice parfait que tu as accompli sur la croix, ils avaient foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, foi en toi. Et ensuite, tes disciples qui ont tellement vu et dans cette histoire qui en voulaient plus encore, qui voulaient voir plus pour croire. Et pour ces deux cas, cette femme cananéenne, ce centurion romain, qui ont seulement entendu, qui ont cru tout ce qu'ils ont entendu et qui ont mis en application cette foi que tu as bénie. Seigneur, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il y a tous ceux qui nous ont précédés, même depuis que ces écrits ont été donnés. Seigneur, il y a tous ces hommes et ces femmes dans l'histoire de l'Église, et il y a celles et ceux aujourd'hui, dans ces pays où ils sont massacrés à cause de leur foi, qui doivent relire ces textes et les mettre en pratique. Alors Seigneur, dans les temps bénis de nos vies, rappelle-nous qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à aller chercher là-haut, que si tu nous demandes de lâcher la branche par la foi, c'est que tu as des bonnes raisons de le faire. Seigneur, que notre foi puisse grandir ainsi, et nous voulons voir sur ton visage le sourire d'un Seigneur et d'un Sauveur qui voit la foi qui est grande, la foi de ses enfants. C'est en son nom que nous prions. Amen.